Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si Accordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h06, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Si vous avez raté la première heure d'émission, sachez que nous avons débriefé la 37e journée de Ligue 1. Paris fait-il quand même un beau champion? L'OM a-t-il réussi sa saison? C'était à 9h, à 9h30. N'hésitez pas à aller nous télécharger en podcast. Toujours avec Marie Martineau, David Douillet, Renaud Longuèvre, Simon Dutin. Dans quelques instants, nous allons nous allons parler du Grand Prix de Monaco. C'est à 15h. Aimez-vous ce Grand Prix? Chiant, pas chiant, on va régler cette question une bonne fois pour toutes. Et nous sommes avec Jean-Luc Croix, notre spécialiste Formule 1, dans le studio RMC. Salut Jean-Luc.
Eh bien, salut mon JC, bonjour Jean-Luc. Et bonjour salut à tous.
Ravi d'être avec toi. À 15h, le départ de ce Grand Prix, tu vas tout nous dire. Comme d'habitude, 10h30, un homme en colère. Pierre Ami, je veux revenir sur le foutoir au CNOSF cette semaine. Et puis 11h, nous passerons la seconde avec la 122e édition de Roland-Garros qui débute aujourd'hui. Comme tous les ans, nous avons envie de vibrer avec nos Français. Faut-il être indulgent ou exigeant avec eux? Joe Wilfried Tsonga sera notre invité exceptionnel. Et puis ne manquez pas votre séquence, les GG. Le guet-apens pour les grandes gueules du sport, le fameux débat caché. Quelle est votre sensation, votre avis? Je vous ai préparé quoi ce matin, Marie Martineau?
Alors, moi j'étais sur deux dossiers. Le premier, le mariage de Simon Détieux et Célia Émonier. On parle jamais des couples qui font du sport à haut niveau et qui vivent ensemble.
Les biathlètes.
Voilà, là pour le coup ce sont les biathlètes. Voilà, donc un petit sujet autour de l'amour dans le sport de haut niveau. A-t-il sa place? Un truc comme ça, tu vois, team okay. Pour, team contre.
Très bien.
Et le deuxième, ça aurait été la seule femme présente aux 24 Heures du Mans la semaine prochaine. La personne de
Florian Pain. C'est dans 15 jours.
Dans 15 jours. Pardon. Ah ouais, c'est pas la semaine prochaine qu'on y va?
Non.
Ah mince,
nous y serons le samedi 10 juin.
Tu
peux y aller la semaine prochaine,
coup,
on ne sera pas là.
Ah, il y aura moins de circulation du coup, c'est cool.
Pas plus calme.
Donc voilà, une ambitieuse parisienne qui ne compte pas s'arrêter là et donc peut-être qu'on pourrait parler de femmes au volant.
Le samedi 10 juin, nous serons en direct du Mans pour les 24 heures du Mans, la 100e édition avec les grandes gueules du sport.
Mais c'est pas ça.
Mais c'est pas forcément ça. Je vais pas te mentir, Marie. Simon Dutin, le débat caché, c'est quoi?
Le Racing Club de Lens a-t-il réussi sa saison
Ça serait cool.
J'ai oublié, j'ai séché, bon, j'y sais, j'ai pas de.
T'as rien sous la dent,
sous la main.
Ok, très bien.
Désolé.
Renaud Longuèvre.
Bah moi j'ai trouvé le débat caché. Non, pas du tout. Pas du tout. Le débat caché, c'est Jean-Christophe Drouet, est-il capable de lancer une boule de pétanque de 730 grammes à plus de 20 mètres? Pourquoi? Parce que le record du monde du lancer de poids a été battu dans la nuit. 23,56 m par Ryan Krauser avec un boulet en fonte de 7,260 kg. Donc c'est ça le grand
c'était
débat.
C'était quoi le précédent record?
Ah bah c'était lui qui l'avait.
Ah, il l'avait, ok. Il a battu son propre record.
Okay. Ouais, il a battu son propre record de 20 cm, je crois.
Bravo.
Énorme.
Je vais peut-être le retenir, ça. C'est peut-être ça le débat caché qui se
franchement, c'est ça. Je vais prendre un café, je te jure.
Le lancer de poids, est-ce bien raisonnable? Ça pourrait être un bon débat. Ouais. David Douillet.
Ah, mais moi, Marie m'a piqué. Enfin, tu m'as rien piqué.
Pardon.
Non. Pas de problème. Moi, j'étais sur les 24 heures et aussi la première femme qui participe.
Hey.
Je trouve ça génial. Génialissime. Donc, ça serait bien qu'on en parle, ouais.
Ok, c'est dans deux semaines, on aura le temps d'en parler, car ce n'est pas ça le débat caché. Quelqu'un l'a-t-il trouvé? Réponse dans 30 minutes maintenant, à 10h40. Les artistes entrent dans l'arène. C'est un marronnier, une question qui revient inlassablement. Le Grand Prix de Monaco est-il à la hauteur? Une question pas seulement posée par les observateurs, dans les médias. Les propriétaires de Formule 1 se sont eux-mêmes interrogés. Monaco, c'est l'histoire d'un Grand Prix historique que tout le monde attend avec impatience et pourtant, parfois, à la fin, on est déçu. D'autant que le circuit monégasque n'est plus le seul sur le marché des grands prix en ville. Désormais, il y a Bakou et il y aura pour la première année Las Vegas. Ce sera à la fin de la saison. Dans le coin gauche, pardon de le dire, mais ce grand prix est un peu chiant. Marie Martineau, Jean-Luc Roy. Dans le coin droit. Ce grand prix n'est pas chiant.
Mais je rêve.
Restez assis, bien assis.
Il n'a pas honte.
Jean-Luc Roy.
Ah, attendez, il va vous répondre, il va vous donner des arguments, des faits, et forcément, les réponses seront peut-être un peu nuancées. Dans le coin droit, ce grand prix n'est pas chiant. David Douillet, Renaud Longuèvre et Simon Dutin. C'est le bras de fer des juges.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Et avant de débattre, on retrouve notre envoyé spécial à Monaco. C'est Valentin Jamin. Salut Valentin.
Salut à toutes et à tous.
Salut Valentin.
Salut.
Et l'été dernier, le Grand Prix de Monaco a eu très chaud. Il a failli disparaître, Valentin.
Oui, ce Grand Prix était en fin de contrat l'an dernier et les propriétaires des droits commerciaux de la F1, Liberty Media, ont un peu laissé traîner les choses, on va dire. Ils sont arrivés, pour résumer, en disant au Grand Prix de Monaco, d'accord, on peut prolonger, mais pour telle somme, là on parle de 18 millions d'euros par an, et à telles conditions, par exemple, maintenant c'est la F1 qui s'occupe de la réalisation télé. Monaco a fini par accepter tout ça parce que Monaco s'est un peu retrouvé en position de faiblesse. C'est la preuve que les promoteurs de la F1 ne s'embarrassent pas forcément avec l'histoire. Eux, ils veulent conquérir le public américain, ils veulent du show, ils veulent Miami et sa marina, Las Vegas, on en a parlé, les grands prix à Bahreïn en nocturne, et puis c'est aussi une question de prix, le Qatar et l'Arabie Saoudite donnent 50 millions d'euros par an, donc ce qui a sauvé Monaco, c'est probablement oui son histoire, et aussi peut-être les fans qui sont très attachés à cette course comme ceux qu'on a pu croiser hier.
Pour moi, c'est un Grand Prix qui doit rester. Quand on parle de Formule 1, on parle tout de suite de Monaco. Et même pour des gens qui ne regardent pas, ils savent que Monaco est dans le calendrier des Grands Prix de F1. Côté mythique, le côté un peu bling-bling, parce qu'on est à Monaco. Et puis, franchement,
c'est quand même beau de voir passer des bagnoles à cette vitesse-là, avec la précision de la trajectoire. Ils sont toujours à la limite. Et moi, j'ai eu l'occasion de voir le Grand Prix de France aussi. C'est sûr que la piste est beaucoup plus belle. Il y a des déplacements, des grandes lignes droites. Mais Monaco, quand même, pour moi, ça reste mythique.
Oui, parce qu'un des défauts et principaux défauts selon certains, c'est le manque de spectacle en piste. Sur les 19 derniers Grands Prix ici, 12 fois le poleman a gagné, parce que bien sûr c'est très dur de dépasser, d'autant que les voitures sont plus larges depuis quelques années. Même Christian Horner, le boss de Red Bull, aimerait quelques aménagements.
Si quelqu'un proposait ce circuit au calendrier aujourd'hui, il n'aurait aucune chance. Nous roulons ici en raison de l'histoire, de l'héritage, de la toile de fond, du glamour. Pour la viabilité à long terme de ce lieu, ce serait formidable d'examiner ce qui est possible de faire pour introduire de véritables possibilités de dépassement ou pour adapter le circuit sur une certaine période.
À voir en tout cas pour l'instant, Monaco a sauvé sa peau jusqu'en 2025 au moins.
Merci beaucoup Valentin Germain pour toutes ces précisions. On te retrouvera tout au long de la journée pour tout savoir sur ce Grand Prix de Monaco. Départ à 15h. Ce Grand Prix de Monaco est-il chiant? Team chiant, team pas chiant, on va résoudre cette problématique aujourd'hui dans les grandes gueules du sport pour ce 80e anniversaire. Vous avez été nombreux et vous êtes nombreux à voter depuis ce matin sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. C'est très serré. Mais ça se démarque un petit peu. C'est du 58-42. 58 chiant, 42 pas chiant. La team convaincue par ce Grand Prix de Monaco, vous allez débuter. David Douillet.
Je vais pas vous faire l'affront de refaire l'historique du Grand Prix de Monaco et de l'immensité des champions qui se sont succédés sur le podium, sur la première marche du podium. Moi, je veux plutôt vous parler de Liberty Media. Liberty Media qui a racheté la F1 et des droits et du modèle économique de Liberty Media. Je suis sûr et certain que si ils continuent à faire migrer les grands prix aux plus offrants, je parle du prix du plateau, et tu as parlé de 50 millions de dollars pour tout ce qui se passe dans le Middle East versus ce qui se passe plutôt en Europe, on est plutôt dans la vingtaine de millions de dollars. Bien, je suis pas sûr qu'ils arrivent encore dans le futur à valoriser leurs droits, et là je parle des droits télé, parce que en migrant comme ça ailleurs, je suis sûr et certain qu'il y aura forcément, mécaniquement, un désintéressement des populations, en tout cas d'Europe, sur la F1. Et je pense que ils sont en train de mesurer petit à petit ces effets je vais plutôt d'un côté avec des plateaux plus chers, mais je risque d'avoir des droits télé qui vont diminuer parce que historiquement, et puis au niveau des spectateurs, des téléspectateurs, eh bien ça se passe peut-être plutôt dans l'hémisphère nord. Donc voilà l'équation, je pense, auquel est confrontée Liberty Media. Et c'est une des raisons, je pense, qui a fait que le Grand Prix soit préservé.
Oui, mais tu réponds pas à la question. Sportivement, nous on s'intéresse sportivement. Même si on comprend que tu nous dis que Liberty Media a besoin aussi de Monaco, ça on a compris.
Si, j'y viens. Sportivement parlant, je suis désolé, mais il suffit de regarder les qualifs d'hier. Les qualifs d'hier, tout le monde se tient dans un mouchoir de poche, et vous avez Ocon qui fait un temps de folie en rasant les murs, en les touchant même. Alonso qui de par son talent et sa voiture chez Aston Martin nous claque à lui tout seul la pole. Et puis Verstappen qui touche deux fois les bords du circuit et qui arrive à rafler la mise devant tout le monde. Mais c'est monstrueux. Et au cours de ce moment de qualif, vous en avez qui touche et qui casse.
Je remets pas en question le fait que les mecs passent au ras des murs à des endroits où toi-même tu rentrerais les rétros et eux ils passent à 250 à l'heure.
Je vais finir Marie. C'est vrai que c'est un circuit qui peut, si l'ordre est établi et si les gars prennent pas de risque du tout, c'est vrai que ça peut être un petit peu barbant. Mais la casse est tellement présente, la faute est tellement au rendez-vous que ça peut, à tout moment, l'ordre du Grand Prix peut changer.
Les gens qui regardent.
Et c'est ça qui rend le truc intéressant, parce qu'ils peuvent pas dépasser correctement. Puis Monaco, je suis désolé.
Pas dépasser du tout.
Non, mais quand ça sort du tunnel, enfin, je sais pas, quand, avec les caméras embarquées, c'est extraordinaire. Ça sort du tunnel, il y a ce voile noir que vous avez, et d'un seul coup, ce voile blanc parce que vous arrivez à la lumière du jour. Cet instant-là de quelques millièmes de seconde, on se dit, ouais, le flash, comment ils sont à plus de 250 km/h. Waouh, moi, ça m'impressionne à chaque fois, pilote.
Okay.
C'est incroyable.
Oui, mais moi aussi, je te dis, JC, demain, tu me dis, on fait une déloc au Grand Prix de Monaco, mais je saute de joie, j'emmène Jean-Luc Roy avec moi dans ma voiture. On descend tout de suite, on y est, tu vois. Et je renonce à toutes mes autres délocs, tu vois. Il n'y a pas de souci. Je pense juste que devant la télé, un dimanche après-midi, si tu as le choix entre le Grand Prix de Monaco, où il fait beau, où tu as un Verstappen devant, avec peu de perspectives de mouvement de course, ou aller te promener parce qu'il fait toujours beau et aller jouer, faire un petit foot avec tes gosses, tu vas aller faire le foot.
C'est faux.
Tu reviendras vite fait pour regarder. Tu vas te faire le départ et puis tu vas aller jouer avec les gosses.
Mais c'est souvent d'ailleurs. Ce qui est reproché, critiqué à ce Grand Prix Monaco. Vous avez entendu le patron de Red Bull. Il le dit lui-même. S'il y a un ordre établi, c'est très difficile de changer.
De bouger. Alors, ça n'empêche que il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Hein. Le Grand Prix de Monaco a toute son histoire, a son héritage, a son glamour, a ses stars qui viennent, a sa French Riviera, se passe juste après le Festival de Cannes. Tout ça, ça existe. Hein. Moi, je vous parle juste techniquement.
C'est
la tradition. Je suis désolé. C'est le deuxième circuit le plus ancien pour le championnat du monde de Formule 1. C'est que faites-vous du romantisme, de l'histoire, de la légende. Tu regardes le palmarès. C'est Senna qui a gagné le plus de fois. Derrière, c'est Schumacher. Ensuite, c'est Prost. Il y a cette espèce de cliché. J'en ai ras-le-bol. Non, ça dépasse pas à Monaco. 2021, c'est aucun dépassement. Tu regardes, c'est arrivé. C'était la deuxième fois que ça arrivait après 2003. Sinon, il y a toujours des dépassements au Grand Prix de Monaco. Justement, tu conduis au cordeau, ces circuits urbains. Heureusement, justement, que ça existe.
Exactement.
Encore. Moi, je te dis, mon berceau, c'est le Béarn. Quand j'étais petit, mon grand-père, il m'emmenait à Pau, où il y avait à l'époque, c'était la Formule 3000, un circuit à Pau. Tu vois la ville qui se transforme, tu vois ces endroits où tout le monde passe, qui deviennent des virages mythiques. Je suis désolé, les stars, t'as envie de les voir. Ça fait partie du décorum, Marie. L'an dernier, il y avait Zidane. Excuse-moi, ça attire les caméras du monde entier. Naomi Campbell, Heidi Klum, je suis désolé. désolé, t'es là aussi pour voir ça. Il y avait Michael Douglas avec.
Je te dis que si j'avais l'occasion de prendre un volant, c'est pas Monaco que j'ai roulé.
C'est du show, les qualifs hier. Moi, j'étais scotché devant les qualifs. T'as Ocon qui fait la pole, il se fait de la fait piquer par Alonso, qui se la fait piquer par Verstappen, alors qu'il tape deux fois le mur. C'est fabuleux. Je suis désolé. C'est fabuleux. Et effectivement, il y a moins de dépassements qu'ailleurs, mais ça rend justement chaque dépassement beaucoup plus mythique et spectaculaire que quand c'est avec le DRS au bout d'une ligne droite qui fait 14 km de large. Je suis désolé, c'est fabuleux et ça fait partie de la légende. Je pense que les organisateurs de la saison de F1, ils se tireraient une balle dans le pied s'ils disaient on arrête avec Monaco parce que regardez, on a le même à Miami, mais alors que là-bas on peut. Je suis
ça
désolé,
les a pas empêchés
tu peux pas
de mettre
piétiner l'histoire comme ça.
Ça les a pas empêchés de mettre la pression sur Monaco pour ce côté justement non spectaculaire du Grand Prix. Le décorum, on est tous d'accord, mais il y a un moment donné, il faut aussi quelque chose sur la piste et c'est aussi une question d'argent. Avant d'écouter voilà, Jean-Luc Roy,
c'est une question d'argent.
Renaud Longuèvre.
Moi, je voudrais amener juste, je pense que David et Simon ont été excellents, juste une petite citation d'un grand champion, Nigel Mansell, qui a dit « Courir à Monaco, c'est comme piloter un hélicoptère dans son salon ». Bah, moi, je pense qu'il faut respecter la virtuosité des pilotes.
Ouais, mais je la respecte ça. Entièrement.
Il faut la respecter.
Je l'ai déjà dit mille fois sur cette antenne.
C'est marcher sur une slackline, tu vois, avec 200 kilos sur les épaules, avec une barre de squat.
Ce n'est pas chiant
je veux dire,
à regarder.
Respecter
mais
ça,
bien
mais
sûr,
respecter
mais je
ça.
Respecte
non,
de fou. Mais regarde, alors,
il y a un moment, moi, j'en ai marre. C'est comme le débat au début de saison avec quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, Christophe Cessieux, qui dit, bon, de toute façon, Verstappen, c'est trop facile, il va tout gagner, tout ça.
Mais c'est pas ça que je te dis.
Il est où Il est où le respect?
La descente en ski, c'est ultra respectable. La descente en ski.
Oui, non, mais d'accord.
Écoute-moi.
Et en quoi c'est pas respectable?
Écoute-moi.
Non, mais
la
moi j'ai envie de pousser
ski,
un coup de gueule. Marie, laisse-moi finir. J'ai envie de pousser un coup de gueule. Parce qu'il y en a marre. Je veux dire, Verstappen, soi-disant, il est ennuyeux. Mais on a badé Michael Schumacher. On a badé les champions dominants. Les Alain Prost, le mec, il a 26 ans, il est en train de gagner son troisième titre de champion du monde. Et dans cette émission, tous les dimanches, on vient nous expliquer que la F1, c'est chiant parce
mais
que Verstappen, il bat tout
ça.
Le monde. Non, mais arrêtez. Je veux dire, c'est pas possible ça. Je peux plus entendre ça. J'en peux plus, moi, de ces débats-là.
Marie, 10h20, arrêtez de casser la tête à tout le monde.
J'essaye de le dire à quelque chose depuis tout à l'heure.
Je parle. On fait pas cette émission que pour nous. À un moment donné, si vous êtes tous en train de brailler, je veux bien prendre des coups de gueule.
Pas parce que tu domines que t'es chiant.
Non, mais je veux bien qu'on pousse des coups de gueule, mais si on crie tous, franchement, moi, je suis dans
non,
ma
mais là,
voiture.
Ça me rend fou,
le premier truc que je fais,
j'essaie de mettre un peu de distance et de pas être, voilà, bêtement dans le ah oui, Monaco, c'est super. Alors que je suis la première espèce de fan de Monaco, il n'y a pas de souci. Je vous dis, si tu prends la descente en ski, c'est respectable, les gars, c'est des fous, ce qu'ils font, c'est dingue. Tu te mets dans le canapé, tu regardes, ça ressort rien, c'est nul. Tu vois un saut de 40 mètres, tu t'en rends même pas compte. L'image est pourrie. Et cette année, au championnat du monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des drones, ils ont amené quelque chose de différent. Ils ont réussi à rendre la descente ses lettres de noblesse. Je vous dis qu'à Monaco, bien sûr que c'est incroyable. Je suis mille fois d'accord avec vous. Ce qu'ils font, c'est dingue. Maintenant, il y a un problème entre ce qu'ils font et ce qu'ils en ressort. Et ce qu'ils en ressort, c'est que ça peut être un petit peu pénible à regarder. Voilà.
Mais si tu avais vu les qualifs d'hier, je te jure que quand tu vois les voitures, les ralentis, quand tu vois les pneus qui touchent la rambarde et tu vois les longerons, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, ce qui tient la suspension, commencer à vriller quelquefois, se casser, etc., etc. Le type perd le contrôle de sa voiture et finit dans le rail suivant. Enfin, je veux dire, c'est haletant. Et dans la course, c'est ce qui peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et c'est ça qui donne le
coup. C'est haletant. Mais pour rejoindre Marie, et on va donner la parole à Jean-Luc Roy, la voix de la sagesse, pour rejoindre Marie, une fois que tu as dit que c'était génial, moi j'ai eu la chance de faire une fois les qualifs à Monaco. C'est un truc à voir dans sa vie. C'est exceptionnel. Le bruit des voitures dans une. Non, mais attends.
T'es parti en quelle position, du coup?
Une fois qu'on est au 21e.
Il y avait 20 voitures, c'est pour ça.
Avec le frein à main. Enfin bon. Non, mais j'ai pu apercevoir ça. Si vous avez une fois la chance dans votre vie de le faire, c'est exceptionnel. Parce que le bruit des voitures, parce que le décorum, parce que t'es à Monaco, parce que c'est la corniche, parce que. Oui, ok, tout ça. Une fois que t'as dit que c'était des grands champions, qu'ils avaient une belle bagnole, que les mecs étaient très forts, que ce sont des champions hors du commun, je suis d'accord avec vous. Force est de constater que parfois.
C'est là où tu vois le génie des pilotes.
Faut être un public averti, le génie des pilotes. Quand tu regardes ta télé, tu vois les mecs, ça passe très vite, c'est super. Sauf qu'au niveau sportif, parfois, et il faut savoir le dire, c'est pas parce que c'est à Monaco, parfois, tu t'ennuies à Monaco, et c'est pas grave, mais tu t'ennuies, Jean-Luc Roy.
Je suis pas d'accord.
Alors, je vais faire la part des choses et David, je vais rebondir. Évidemment, je comprends que tu sois surpris de me voir dans ce, mais je vais reprendre.
Ah oui.
Je vais reprendre ton expression de Normand. Parfois oui, parfois non. Parce qu'effectivement, à Monaco, tout peut arriver. Tout ce que vous avez tous dit, évidemment, est vrai. Et en plus, vous avez travaillé le sujet. Je vais vous donner deux exemples contradictoires pour prouver que Monaco peut être très chiant. Même le Grand Prix de l'an dernier, où les Ferrari étaient devant, Charles Leclerc avec sa pole enfin était en train de concrétiser. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé dans les stands. On a bien joué chez Red Bull, on a très mal joué chez Ferrari. Donc les positions des deux pilotes, enfin des 2x2, 4, ont été changées. Charles a perdu la victoire, pour être clair, il termine 4e, vert de rage. Alors avant cet arrêt au stand, il ne s'est pas passé grand-chose parce que les deux Ferrari étaient devant et les Red Bull étaient derrière. Après cet arrêt au stand, bah, c'était l'ordre inverse, les Red Bull étaient devant, les Ferrari derrière. Donc celui-là, je ne le qualifierais pas de passionnant et je pense que David, tu peux être d'accord avec moi sur ce point-là, celui-là n'était pas le meilleur. Maintenant, il y en a eu d'autres. Et alors, je suis surpris qu'aucun de vous n'ait relevé la 14e place sur la grille d'Olivier Panis. Moi, j'ai fait souvent référence. Je l'ai commenté en direct ce Grand Prix sur une autre antenne. Je peux vous dire qu'on avait.
Oui, mais on peut pas ressortir.
Non, 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 mais ça veut dire que ça existe. Et pour aller, tu vois, c'est pour ça que je fais la part des choses. Pour aller dans votre sens, Ayrton Senna, 88, vous vous rappelez pas? Ben, moi, je me rappelle. Parce que, là aussi, je suis là, j'étais là. Ayrton était en tête. 52 secondes d'avant sur Alain Prost. Les deux étaient chez McLaren, ils dominaient toute la saison. Et on sentait que ça allait friter entre les deux, ça a frité l'année d'après. Ayrton, qui avait la pole, qui était en train d'écraser, parce qu'il avait mis, je crois, une seconde et demie en qualif à Alain Prost. Ça paraît incroyable, mais il l'a fait. Et c'est là qu'il a expliqué qu'il était dans un état second, que, etc., qu'il se voyait conduire, et c'est là que certains ont commencé à le traiter de fou. Non, il était mystique, c'est tout. Or, bref, je la fais bref, j'essaie, pour une fois, au 52e tour de mémoire sur les 78, il fait une erreur au virage du portier, qui est le petit virage à droite d'entrée avant le fameux tunnel qui n'existe que là, on le sait bien, et là Ayrton tape le rail à l'intérieur et renvoyé à l'extérieur, il est, mais c'est pas vert de rage, il est fou de honte contre lui-même, il rentre chez lui dans son appartement de Monaco, il ne va même pas voir les gens de McLaren, ils l'ont vu deux jours après, et donc c'est Prost qui remporte le Grand Prix dans les annales, c'est lui, donc ça veut dire que pour appuyer, je crois qu'également c'est David qui disait ça, ou Renaud, que effectivement tout peut arriver à tout moment, parce que c'est du pilotage. On parle plus de centimètres, on parle de millimètres. Alors maintenant, c'est pour ça que j'essaie de faire la part des choses. Des courses chiantes, oui, il y en a eu plein, je peux vous en citer, il y en a eu, mais il y a eu des courses formidables, et alors les qualifs, ça c'est autre chose. Alors là, je suis obligé de dire que ça c'est... Et celle d'hier,
on
l'a vécue en direct ensemble, elle était géniale. Celle d'hier, alors là...
Mais souvent, les qualifs à Monaco sont géniales, c'est après le problème en course.
Tout à fait.
Non, non, mais c'est pour ça que je dis, on peut avoir, par exemple là, on a Verstappen qui part devant. Je fais les deux hypothèses, hein, c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Verstappen part devant, stratégie impeccable. Fernando fait ce qu'il peut, mais il est bloqué derrière. On ravitaille, on se copie, chacun s'observe et on repart pareil. C'est mort.
On rentre à la maison.
C'est mort. Si aucun ne fait une erreur, bah on va dire ouais, bon bah belle victoire de Verstappen, mais c'est quand même très emmerdant. À l'inverse, Alonso part devant avec une voiture qui est quand même un poil inférieur, avec l'autre aux fesses qui va le pousser à la faute, il va la faire ou pas la faire. Et là, c'est une affaire de stratégie qui entre dans le jeu, parce que on va tenter le fameux undercut ou pas, ou l'overcut. Ça veut dire qu'on va l'arrêter un poil plus tôt pour essayer de surprendre le type qui est devant, en l'occurrence Alonso. Ou à l'inverse, on va le maintenir en piste tant que ses pneumatiques ont du rendement. Et on va voir. Alors je sais que c'est un peu technique, c'est pour ça que c'est peut-être pas accessible à tout le monde. Et c'est pour ça que notre boulot, enfin, le mien entre autres, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens qui sont pas forcément tous passionnés de sport mécanique et de Formule 1, pourquoi l'enjeu est serré. Donc je m'inscris... Voilà, au milieu, je sais que c'est un peu lâche, mais je peux pas dire que c'est chiant tout le temps, c'est pas vrai, mais parfois c'est très chiant.
Et l'an dernier, voilà. On s'en souvient pas parce qu'il termine pas dans les points, mais Gasly réalise 3 ou 4 dépassements pendant la course, et bon, voilà, si ça avait été pour le podium, on dirait quelle course phénoménale.
Comme l'histoire,
Jean-Luc, on peut le dire d'autres grands prix, hein, excuse-moi.
Ah, hein, mais complètement.
On est
d'accord. Ah, ben, Monaco.
Il peut y en avoir partout.
Et moi, je parle que du sportif, hein, parce que tout ce que vous avez dit sur le hameau. Si la question eût été, faut-il supprimer Monaco? Ah, ben là, j'ai non.
Ah, ben
bien
non,
sûr,
ben,
il faut
en a d'autres conserver
Monaco. Voilà, c'est pas ça le sujet. Est-ce que ça peut être chiant? C'était ça la question. Est-ce que ça peut être chiant? Oui, ça peut être chiant. Et puis, non, ça peut être fantastique.
On va stopper ce débat-là. Verstappen en pause. dommage. Fernando Alonso est troisième. Oui. La troisième place d'Esteban Ocon.
Et oui, et parce Charles qu'il récupère. Voilà.
La pénalité de Charles Leclerc.
Alors là, je vais déjà vous le vendre, parce que à 15 heures, vous avez intérêt. J'ai deux minutes.
Le fait
que Charles, qui n'est jamais parvenu à s'imposer, tu te rends compte, avec deux pôles.
On en parle.
Charles, bon, il va partir sixième. La remontée de Sergio Pérez, mais ça va être dément. Et il y en a un autre, il faut faire attention. Hein. Il s'appelle Lance Stroll, parce qu'il a la même voiture que celle d'Alonso. Il s'est raté. Il est jeune encore, il a commis une erreur, etc. Il part 14e. Je peux vous dire que des remontées, il y en aura, et des dépassements, on devrait quand même en voir.
Ok, j'espère qu'on ne va pas s'ennuyer cet après-midi. Sinon,
mais non.
Marie et moi-même, nous enverrons de nombreux messages sur notre groupe WhatsApp. Mes chers amis,
oui, bah, c'est que à 15h avec Jean-Luc.
C'est dans à suivre, j'allais y aller. Merci. C'est à suivre à partir de 15h avec Simon Dutin et Jean-Luc, The King, Jean-Luc Roy, au commentaire. Ce Grand Prix de Monaco que l'on espère palpitant avec nos Français, je le disais, notamment Esteban Ocon qui va partir 3e.
Et Pierre n'est pas loin non plus, 7e. Hein.
Voilà. Jean-Luc, coupez-lui son micro, sinon il est là jusqu'à 13h. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport. Un homme en colère, le CNESF, la pagaille, la honte. C'est avec Pierre Amiche. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules du Sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h32, de retour dans les Grandes Gueules du Sport avec ce matin Marie Martineau, David Douillet, Renaud Longuèvre, Simon Dutin. Restez bien avec nous dans une dizaine de minutes. Il y aura le guet-apens. Le débat caché. Quel est le débat caché du jour? Peut-être l'avez-vous trouvé. N'hésitez pas à me donner vos options sur l'application Direct Studio. Mais tout de suite, comme tous les samedis et dimanches à 10h30, on accueille Pierre Amiche.
RMC,
l'homme en colère.
Mais pourquoi est-il aussi méchant?
Pierre Amiche, bonjour.
Bonjour à tous.
Pourquoi en colère aujourd'hui?
Alors déjà ce dimanche, j'arrive un poil après la bataille, mais je voulais vous parler de la démission forcée de la présidente du CNOSF, Brigitte Henriques, à un an des JO, et alors qu'elle représentait le mouvement olympique et toutes les fédérations sportives françaises, elle a été débarquée. Une défiance assez inexplicable. Enfin si, mais c'est pas glorieux. Des accusations sur des prétendues notes de taxi, des soutiens des quatre fédéraux pas blanc-blanc, une guerre intestine avec des salariés du CNOSF. Et à force de pression, d'articles à charge, de plaintes, de contre-plaintes et un étrange manque de soutien, elle a démissionné. En guise de préambule, je voudrais dire que je me fous totalement de la politique. Je suis pas copain avec qui que ce soit, j'ai même jamais parlé à Brigitte Henriques. Et si j'arrive après la bataille, c'est qu'il fallait le temps de comprendre les tenants, les aboutissants et prendre, c'est rare, un peu de hauteur, simplement pour pouvoir être le plus clair possible. Et que chaque mot que je prononce soit juste. J'ai honte. Honte parce que cette semaine, le sport français s'est une nouvelle fois ridiculisé. Je sais pas si je suis naïf, candide ou crétin, mais j'ai toujours envie de croire que le sport est par essence juste, droit, animé d'une forme d'honorabilité naturelle, et donc à chaque fois, je suis malheureux. Alors oui, c'est pas la chronique la plus intelligente de l'année parce que j'ai zéro sens de la mesure, mais je suis furieux. Accrochez-vous, je mets tout le monde dans le même panier. Celui de l'impudeur et du marasme. Quelle image déplorable. Et dans le grand sac de la honte, j'y fous tout le monde. Dans le sac, Brigitte Henriques, pas capable de comprendre que mentir c'est mal, que soutenir un cadre fédéral poursuivi pour harcèlement moral et sexuel, c'est mal. Et que dans un monde aussi lisse et sans nuance, que dans un univers aussi hypocrite que celui du CNOSF, on n'est jamais trahi que par les siens. C'était pas les bisounours, ma grande. Dans le sac, ces complotistes de bas étage, félons de cours de récréation, traîtres à la petite semaine, qui retournent leur veste dès que le vent tourne, qui balancent des infos à la presse, histoire de faire plier l'adversaire politique, qui ont préféré dénoncer une femme esselée que d'avoir le courage de la soutenir publiquement quand elle portait plainte pour harcèlement moral contre un collègue. Fallait surtout pas être éclaboussé par quoi que ce soit. Hein. Dans le sac, ces présidents de fédés grabataires, plus attachés à sauver leur poste qu'à faire vivre le sport, qui font de vernissage en soirée de gala pour se baffrer de petits fours et se faire appeler monsieur le président, madame la présidente, symbole d'un monde du sport décadent et immoral, où il n'y a jamais de blé pour les sportifs, mais où les patrons ont des caisses de fonction et des vies de ministres dans le sac. Tous ces présidents déchus ou juste décevants, inquiétés par les affaires en tout genre, de Legrette à la Porte, de Gagayé à Moreton, de Gachassin à Martigny, qui servent du sport plus qu'ils ne le serviront jamais. Dans le sac, les vautours qui réclament l'union sacrée et le poignard à la main, qui se déclarent candidats alors que le cadavre est même pas froid, des Isnogout sans génie qui se cachent derrière les « Oh, bah si la France m'appelle, j'irai ma bonne dame ». Dans le sac, les journalistes complices qui attaquent et qui dénoncent au gré de leurs amitiés, de leurs intérêts, ou tout simplement pour être du côté de la morale plutôt que de celui de la justice, tous ces Albert Londres du caniveau « Pendez-le haut et court et mettez mon pote à la place. » Dans le sac, la ministre des Sports, Amélie Oudac-Castéra, influenceuse Twitter qui passe plus de temps à commenter les affaires judiciaires en cours plutôt qu'à gérer tout ce bordel. Celle qui pense que son rôle c'est de dire le bien, le mal, le blanc, le noir, et qui assène « Oh, courage sublime, que faire des choses bien, eh ben c'est pas gentil. » Mais qui se refuse à soutenir qui que ce soit, même au nom de l'Union Sacrée. Dans le sac, tous les minables comme moi qui ont pu croire que les Jeux allaient faire de notre pays une nation de sport, tous bien en rang derrière le drapeau et les valeurs. Mais tu croyais quoi, Pierre Amiche? Que 5 anneaux, 3 promesses et des discours et et pouf, par magie, on serait plus cupide, calculateur et lâche, qu'on danserait tous ensemble dans une ronde des peuples et de l'amitié. J'ai plus de place dans mon sac, mais j'ai même pas commencé à vider le mien. Vous faites honte, vous dégoûtez, vous instrumentalisez la passion des gens, vous faites votre beurre sur le travail des bénévoles, l'implication des parents, le courage des clubs, l'argent des licenciés, des petits seniors en costume trois pièces au premier rang sur la photo de famille, à l'ouverture des Jeux Olympiques, des valeurs plein la bouche. Oui, tous les présidents ne sont pas des fumiers, mais reconnaissez que depuis 2-3 ans, dès qu'on soulève un tapis, il y a comme une odeur moisie. Et quand le CNOSF, les 5 plus grosses fédés et la moitié des huiles sont inquiétés pour des enquêtes, des affaires financières ou sexuelles, eh ben ça commence à faire beaucoup, trop. Le sport, c'est pas ça. Le sport, c'est pas vous. Les Jeux, c'est pas vous. L'Olympisme, c'est juste l'occasion pour des précaires du sport de changer de vie. C'est le rêve improbable des gens normaux. C'est l'union, l'unique chance parfois d'avoir une toute petite étoile qui s'allume dans la nuit de l'existence. C'est le voyage, c'est le rêve, c'est le partage, c'est l'amour, c'est l'émotion, c'est dépasser les frontières du temps, c'est susciter chez l'autre des choses profondes mais éphémères. Jean-Paul Sartre a écrit « La honte passe quand la vie est longue ». Alors longue vie au sport français et à ceux qui le mènent de scandale en scandale.
On appelle ça un coup de gueule. Coup de gueule.
Ok.
De la de Pierre Brillant. Amiche.
Brillantissime Pierre.
Alors est-ce que vous êtes en colère ou très en colère? On va jouer la nuance là-dessus. Simon Dutin.
Bon, on est en colère.
Marie Martineau.
Ouais, en colère.
David Douillet.
Très, très, très en colère.
Renaud Longuèvre.
Désabusé.
Il prend toujours le contre-pied, je t'adore, Renaud. Désabusé, très, 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 très en colère. David, tu prends la main. Pourquoi très en colère?
Bah déjà, il y en a un qui n'a pas été cité et qui était à la source de tout. Je parle d'un pompier pyromane, c'est Denis Massiglia. Denis Massiglia, qui est l'ancien président du CNESF, c'est lui qui met en place Brigitte Henriques, avec derrière une petite idée. Tiens, bah je vais mettre quelqu'un que je vais pouvoir manipuler. C'est clairement ce qui s'est passé. Il suffit de lire les articles dans l'équipe de l'excellent Marc Ventouillac où vous trouverez toutes les explications. Et tout ça à des fins strictement personnelles, de petits avantages, de raccrocs médiocres. Voilà. Et puis, bah Brigitte Henriques, elle se laisse pas faire. Elle a envie de prendre sa place. Et puis, bah voilà, monsieur se réveille et commence à allumer le feu de partout. Ça, c'est le début de l'histoire. Et c'est toute la médiocrité que vient de décrire excellemment et avec beaucoup de brio, Pierre. Voilà. Ça, malheureusement, c'est le sport français depuis des décennies. Il y en a ras-le-bol. Alors, on va pas revenir là-dessus parce que Pierre l'a très bien exposé. C'est quoi l'avenir? L'avenir, c'est les JO. Et c'est quoi les JO? Bien sûr, c'est une grande compétition, mais c'est surtout l'héritage qu'il va laisser en France. Et c'est pas pour rien, parce qu'on va apporter un petit peu d'éclairage à cette affaire-là, que l'histoire se résout par une démission. Parce que la démission n'était pas du tout à l'ordre du jour, en tout cas, dans la tête de Brigitte Henriques.
Oui, ça a surpris tout le monde, ouais.
Ça a surpris tout le monde. Et il y a un indice qui va mettre tout le monde sur la voie, à ce conseil d'administration où elle démissionne, il y a en présentiel le conseiller de l'Élysée, monsieur Moura. Ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une réunion avec les 4 membres du CIO français et Thomas Barr, le président du CIO. Thomas Barr a dit, oh, les copains, faites le nettoyage parce que vous êtes en train de pourrir tout ce qu'on est en train de mettre en place pour les JO 2024. Stop, fin, je siffle la fin de la récré. Et qu'est-ce qu'il a dû faire, Thomas Barr, en parallèle de tout ça? Il a dû appeler l'Élysée, tout simplement. Et je suis pas, enfin, j'invente rien, mais je suis quasi certain qu'il y aura un phénomène de compensation où on a demandé gentiment à Madame Henriques de démissionner pour aplanir les choses, pour résoudre l'ensemble des problèmes, mais très rapidement, dans l'urgence, et qu'elle bénéficiera d'une porte de sortie qu'on ne connaît pas encore. C'est encore un arrangement d'arrangement d'arrangement d'arrangement. Et malheureusement, ce que Pierre décrit fait perdre l'essentiel au monde du sport français, c'est nos résultats, nos athlètes, la vie de nos athlètes, ce en quoi le CNO a pour première mission.
Oui, mais ça, on a bien compris que c'était pas forcément la première mission, comme tu le disais. Je te redonnerai la main, David. On réagit tous. Marie Martineau.
Oui, bon, moi, évidemment, je suis dépité. La situation est vraiment pas jolie. En revanche, j'essaie d'observer. Ce que j'observe, c'est que toutes ces fédés et ce mouvement sportif, il va bien falloir quand même le faire tourner. Il faut bien qu'il y ait des gens aux têtes de ces fédés, dans les machines, pour pour les arbitrer et faire avancer le schmilblick. Et il y avait une jolie initiative qui avait été mise en place par le CNO sur impulsion de Brigitte Henriquez, pour pas la nommer, qui s'appelle Dirigeante Demain. Et c'est l'idée d'essayer de mettre le pied à l'étrier à des athlètes ou à des gens plus jeunes qui souhaiteraient s'investir dans les fédés. Mais on a un gros problème de mise en fonction de tout ça, parce que pour être président de fédé aujourd'hui, vu les élections, le système qui est mis en place, on reviendra toujours pour l'instant sur les mêmes genres de personnes, sur les mêmes profils, quoi. Et c'est là où le bas blesse, je pense.
On est dans un système pur de clientélisme. C'est-à-dire que quand on est à la tête d'une fédé ou du CNO, on fait plaisir à ses petits copains pour être élu, très clairement. Voilà une des moisissures du sport français, de l'élite du sport français. Voilà. Et tout ce qui est décidé aujourd'hui, le CNO aurait dû être ce qu'est la FNSEA pour l'agriculture. Ça aurait dû être le super syndicat du monde du sport pour défendre le sport lorsqu'il est attaqué par des exécutifs qui ne le considèrent pas. Je parle de certains gouvernements, des entités qui viennent attaquer le monde du sport en permanence pour le décrédibiliser. Rien ne se fait. C'est toujours le doigt sur la couture. On a peur de tout et de son ombre. On se met jamais en avant. On va jamais à la guerre. Dès qu'il y a eu des athlètes qui ont voulu se prononcer pour je ne veux pas, on se souvient de l'épisode de la prise de position de certains sur le Tibet lorsqu'il y a eu les JO organisés par la Chine, on essaie d'aplanir tout, d'abaisser les têtes, faut surtout pas faire de bruit, faut surtout pas leur donner la parole, ce n'est que du politiquement correct.
Or, oui, il y a aussi la règle 40 qui est là-dessus quand même,
hein. Mais le sport a sa place dans la société. Qui dit place dans la société dit action dans la politique de la société, dans la vie de la société, et le CNO n'a eu de cesse de ne pas prendre sa place.
Moi, ce que j'ai peur, en tout cas, c'est que la suite ne ressemble que de très près à ce qu'on vient de dire précédemment.
On va dire un mot sur la suite. Renaud Longuèvre, sur cette histoire.
Sur cette histoire, je pense que... David, moi, je pense que tu n'es pas objectif, parce que... t'es pro Brigitte Henriquez et
non pas du tout.
Et t'es,
alors,
t'es anti
non, je connais
t'es anti Denis Masseglia.
Laisse-moi
développer. T'as parlé,
mais je peux pas dire ça, je peux pas te laisser dire ça.
Non,
je suis
pas
ni pro ni anti ni rien.
Mais oui, David, on est aux grandes gueules, j'ai le droit de dire ça.
Tu m'attaques à moi, je t'attaque pas.
Je t'adore depuis 30 ans, on se connaît depuis 30 ans.
Oui, t'as tous ces disques, vas-y.
J'ai tous tes disques. Je veux dire, David, c'est pas parce que je dis ça que je t'en veux ou que t'es pas mon pote ou quoi que ce soit. Je pense que quand tu commences ton discours en disant la pourriture, c'est de Denis Masseglia,
j'ai pas dit ça. J'ai dit c'est le pompier pyromane. Non, c'est lui qui est à la source aujourd'hui.
Oui, mais tu l'attaques.
Du problème devant lequel on est.
Dave, je suis pas pro Masseglia. Pour moi, je suis pas pro Masseglia. Je suis ni pro Masseglia ni Henriquez.
Moi,
je vois simplement que t'es un peu anti Masseglia.
Vous vous arrangerez là-dessus.
À ce poste-là, il faut un grand président ou une grande présidente. Et faut remonter à Henri Serrandour. Depuis Henri, c'était un grand président. Parce que c'était quelqu'un qui savait tenir son comité olympique. Là, aujourd'hui, Brigitte Henriquez, pour moi, elle a fait une grosse erreur politique. C'est de virer Didier Séminet, son secrétaire général. Je veux dire, dans le monde du sport.
Tu as raison. Sans concerter le conseil d'administration. Elle l'a fait par le fait du prince. Et ça, c'est la grosse erreur.
Voilà, c'est la grosse erreur. Et j'ajouterais un deuxième problème, c'est qu'elle vient du monde du football. Le monde du football, moi, je l'adore. J'ai joué en amateur des années. Mais tu sais très bien, David, et tu ne me contrôleras pas, Marie, pareil, qu'ils ne sont pas de notre monde.
Ils ne sont pas de notre monde.
Le monde du foot, c'est 3,5 millions de licenciés, mais je veux dire, au village olympique, on les croise à peine. Les basketteurs, les handballeurs sont plus intégrés.
Henriquez, c'est une personne assez terre à terre et qui, je ne l'ai pas trop associé au monde du foot, moi.
Non, mais je pense qu'elle est, elle est arrivée avec une gouvernance.
Qui a mis en place Brigitte Henriques?
Non, personne n'a mis en place Brigitte. Elle a été élue quand même. Oui, non,
c'est faux. David a raison.
Oui, ok, plus ou moins.
Qui a mis en place Brigitte Henriques? C'est Denis Massiglia. Vous savez très bien. Elle a été élue, mais par tous les copains.
Moi, j'ai une petite anecdote à vous raconter, les copains. Donc, vous le savez, je siège à la commission des athlètes au CNO. Et il y a quelques années, sous la présidence de Massiglia, on doit décider de quel athlète partira pour faire campagne pour intégrer la commission des athlètes du CIO. Et donc, le choix va entre Martin Fourcade ou Renaud Lavillenie. Et donc, il faut se mettre d'accord en amont. Et donc, une commission ad hoc est créée et une réunion est organisée. Et je fais partie de cette commission ad hoc parce que je représente les athlètes comme j'ai été élue par les athlètes. Donc, on est 6 ou 7 athlètes élus au milieu des présidents de fédé. Et là, je vous jure que la réunion est lunaire. J'ai l'impression d'être dans une cour de récré. Ce sont des enfants. Ils sont tous là à essayer de tirer la couverture à eux. On assiste ensemble à les athlètes à un spectacle. On est obligé, parce que ça part évidemment en sucette, tout le monde s'y met, se braille dessus parce que les enjeux sont a priori importants de savoir si ce sera un athlète
DFDTT
le CNO, c'est ça, d'un athlète d'hiver.
Ils comprennent bien, quoi.
Voilà. Donc, est-ce que ce sera un athlète d'hiver? Est-ce que c'est un athlète d'été? En fait, la question, c'est de savoir quel est le Français qui aura le plus de chances d'être élu par d'autres athlètes internationaux, donc qui est le plus bankable, en fait. On s'en fout de savoir s'il est d'été ou d'hiver. Il faut que ce soit le plus bankable pour qu'on ait une place au CIO. Voilà.
À la soupe.
Et oui, un petit peu. Enfin, il faut en peser. C'est politiquement. Il faut y être. Tout ça pour dire que ça finit par. On est obligé de prendre la parole, nous, les athlètes, en leur disant arrêtez, c'est n'importe quoi. Ils étaient en train de dire attends, on va finir la réunion, on va sortir. La presse est sur les marches. On va aller régler nos comptes, on va aller dire ceci, on va aller dire cela. Il a fallu qu'on leur dise maintenant, vous arrêtez. Il n'y a rien, vous n'allez rien dire à la presse. On va faire un choix, on va tous voter en notre âme et conscience. Et point barre. Et bon, l'histoire fait que c'est Martin Fourcade qui aura eu le plus de suffrages, mais c'était pitoyable.
Attends David, juste, on va marquer une courte pause. Normalement, il aurait dû avoir le débat caché, les copains, mais je sais que ce sujet vous tient à cœur, donc on va prolonger le débat dans quelques instants. Vous entendrez Brigitte Henriques lorsqu'elle a annoncé sa démission, mais également David Lapartien qui fait figure aujourd'hui de favori pour la remplacer à la tête du CNOSF. A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h51, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marie Martineau, David Douillet, Renaud Longuèvre, Simon Dutin. Nous continuons de parler de la crise au CNOSF. C'est un sujet très important. Les GG s'en emparent évidemment. C'est l'une des informations de la semaine. Brigitte Henriques a présenté sa démission. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter, forcément émue lorsqu'elle annonce sa démission. Elle est aux côtés de sa fille qu'elle a fait monter sur l'estrade. C'est un moment assez marquant et peut-être un peu gênant. On écoute.
S'il y a bien des personnes qui m'ont permis de tenir, et c'est incroyable de devoir dire ça, ce sont mes deux enfants. Et je voudrais rendre hommage à... Pardon d'avoir été absente, pardon d'avoir tout donné pour cette passion, pour cette institution, pour le sport. C'était plus fort que moi et aujourd'hui je suis très très fière de pouvoir vous donner encore plus de temps et te dire merci pour ce que tu es ma fille et merci pour ton inspiration.
Et voilà, des applaudissements pour Brigitte Henriques et donc où elle nous parle de sa fille et puis après ça continue, évidemment. David Lapartien, maintenant, qui fait office de favori, il a été questionné, sa réponse.
Je l'ai toujours dit, d'ailleurs dans vos colonnes au demeurant, que je suis candidat à rien. J'exerce aujourd'hui des mandats qui remplissent mes journées, qui me vont bien. Par contre, je suis un serviteur du mouvement sportif et celui ou celle qui sera en charge de conduire le CNO doit recevoir une forme de consensus. Donc, c'était pas mon ambition première, ça ne l'est toujours pas. Si je peux rendre service à la famille olympique, eh bien, je suis prêt à étudier la situation.
Ok, donc ce sera lui ou pas le conseil d'administration?
Candidat à rien, mais ouvert à tout.
C'est un petit peu
disponible.
Pour la patrie. Fin juin, le conseil d'administration va se réunir justement pour élire un nouveau président. Oui, David.
Non, mais il faut savoir qu'au moment où Brigitte annonce, enfin, fait cette petite digression vis-à-vis de ses enfants, la moitié des présidents étaient partis de la salle, hein, voilà. Et que, pour le reste, certains d'entre eux applaudissaient de manière, évidemment, très, très sincère. Hein, c'est vrai. Enfin, voilà. C'est ça, le CNO. Le futur du CNO, c'est quoi? Évidemment, David Lapartient est un excellent dirigeant. Il l'a prouvé à la tête de la Fédération française de cyclisme. Il le prouve aujourd'hui à la tête de l'UCI. Et s'il y en a un qui pourrait rassembler un consensus, ça peut être. Mais il y en a d'autres. Hein. Moi, je pense à mon ami Olivier Giraud, qui lui est un ancien athlète, qui lui a la tête posée sur les épaules.
Qui soutient Lapartient, David. Hein.
Il soutient Lapartient. Mais moi, je parle d'homme de qualité.
Une ancienne GG.
Toujours GG. Je me fiche des titres des gens, je vous parle de l'intégrité des personnes. Voilà, c'est des gens que je connais, et tant Olivier que David, ce sont des personnes qui méritent, ont toute leur place et toutes les qualités à diriger une institution telle que celle-ci. Une institution qui a besoin d'être mise en route, ce qu'elle n'est pas depuis des décennies, je vous le redis. Voilà, parce que derrière, il y a quoi? On a deux candidatures françaises, la région PACA, la région Rhône-Alpes, pour d'éventuels jeux d'hiver. Vous voyez l'image qu'on donne en ce moment?
Vous voyez l'image qu'on donne? Exactement.
C'est catastrophique, c'est honteux. On a tout l'héritage des JO, on a toutes les fédérations à mettre en marche, parce qu'elles ne le sont pas aujourd'hui, pour programmer l'affluence des jeunes gamins qui auront rêvé devant les Jeux Olympiques en France, dans nos clubs. Tout ça n'est pas préparé, tout ça n'est pas anticipé. C'est le rôle du CNO que d'aller dans ce sens, et on parle d'héritage.
Ok, Simon, rapidement.
Oui, j'ai dit, mais de toute façon, je m'efface un petit peu devant Renaud, David et Marie, qui ont leur carrière d'athlète et qui maîtrisent bien mieux que moi la cuisine là, de toutes ces instances. Ce qu'on peut, je pense, regretter, c'est que à mesure que le sport a pris cette importance au niveau médiatique, économique, tout ce que tu veux, c'est le développement juste d'une forme de carriérisme dans ces institutions. Avant, c'était sans verser dans les clichés, du bénévolat, on se mettait au service du sport. Maintenant, tu le vois que dans toutes les fédérations, il y a des élections, il y a des campagnes pour accéder à ces postes, et effectivement tu sens qu'il y a un parcours, qu'on vise d'abord des fonctions nationales pour éventuellement un jour accéder à des fonctions de représentation internationale, et qu'il y a une sorte de prestige qui s'attache à tout ça. Et on a parfois l'impression que la promesse de ces missions là à la base est parfois un petit peu oublié par des gens qui s'égarent en route, et surtout qui se tirent dans les pattes au détriment de la direction que devrait prendre la discipline ou la conduite des politiques sportives.
Ce n'est pas que du sport, c'est de la politique sportive, et donc dans la politique sportive, il y a le mot politique, et on sait parfois les dérives que cela peut produire. La crise au CNOSF, rmcsport.fr pour avoir toutes les dernières informations. On revient dans quelques instants pour parler de Roland Garros. Faut-il être indulgent ou exigeant avec les Français? Joe Wilfried Tsonga sera notre invité. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.